Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
De retour dans le MAC de l'IMO, j'attendais le tapis, mais non, il n'y en a pas en deuxième heure. De retour dans le MAC de l'IMO hein, de ce vendredi 18 juin 2021. Je suis toujours en compagnie de Fabrice Coustet et nous avons également avec nous notre grand témoin du jour, Thomas Lepellars, le cofondateur de Nodalview. Thomas, on vient d'entendre Mistral Gagnant de Renault. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce premier choix musical ?
Ouais, alors Mistral Gagnant, c'est une musique un peu personnelle pour moi parce que j'ai joué longtemps au piano, j'ai joué au piano quand j'étais plus jeune. Quand on est arrivé en Belgique, quand j'ai déménagé de l'Angleterre, mes parents faisaient partie d'un groupe d'amis qui faisaient ce qu'ils appelaient les soirées des talents. Et donc c'était des amis qui se retrouvaient entre eux avec leurs enfants et ils faisaient un grand concert musical une fois par an. Mon père chantait, du coup mon père qui est hollandais. Et moi, je jouais au piano. Et donc, il y a une année, on a décidé de faire une chanson ensemble. Et donc, moi, je jouais Mistral Gagnant au piano et lui chantait. Et c'était un très bon souvenir. Et donc, du coup, j'aime bien cette musique parce qu'elle me rappelle un moment familial fort. Et je trouvais ça sympa de la partager.
Alors Thomas, vous êtes le cofondateur de Nodalview, on l'a dit. Bon, Nodalview, on connaît un petit peu maintenant. Est-ce que pour les auditeurs qui n'auraient pas encore écouté IMO & Tech, bon, honte à eux, mais il y a le podcast pour se rattraper. Vous pouvez nous expliquer un peu le concept de Nodalview ?
Alors Nodalview, c'est une plateforme sales et marketing destinée aux agents immobiliers qui leur permet de créer du contenu photo, visite virtuelle et vidéo. Mais surtout, ça leur permet de créer des stratégies marketing et commerciales efficaces au travers la diffusion de ces contenus sur les canaux digitaux tels que les réseaux sociaux, le site web, les portails immobiliers, etc. Donc là où une diffusion traditionnelle d'annonces, ça va être basée sur typiquement les portails immobiliers et le site web de l'agence, et ben, au travers de Nodalview, on peut capturer du contenu. Donc l'avantage de Nodalview, c'est que c'est un outil de capture intégré à une plateforme sales et marketing qui permet au travers d'algorithmes intelligents d'ailleurs de proposer des visuels de qualité pro parce qu'on reproduit en fait la retouche des photographes. Et puis ce contenu, de nouveau, hein, que ce soit visite virtuelle qui est le mot un peu clé en ce moment, photo, vidéo, ensuite ce contenu est diffusé sur tous des canaux secondaires, donc plutôt les réseaux sociaux, des blogs, etc., pour créer de l'intérêt pour les agents immobiliers et puis après créer un sort de parcours d'achat digital qui permet de découvrir des biens de façon très immersive, puisque dans Nodalview, on peut faire une visite virtuelle immersive accompagnée par son agent immobilier. Et donc on essaye un peu de rehausser les attentes au niveau de l'expérience client pour les acheteurs. Pour les vendeurs, du coup, c'est un processus un peu plus rapide. Et pour l'agent immobilier, c'est plus efficace, plus de chances de vendre au prix. Et donc, on est aujourd'hui 75 personnes dans l'équipe. On a été fondé en 2016. On a nos bureaux à Bruxelles, mais on a aussi des bureaux à Paris et à Madrid.
Ça va vite, alors. Ça va très vite.
Ça va vite.
Justement, on sent bien que c'est là où le bas blesse, hein, quand on regarde les différents sites Internet. Même ceux des pros, des fois, on voit des photos qui ne donnent pas forcément envie. C'est pas forcément bien cadré. C'est pas très clair. Alors, sans parler du bazar qu'il peut y avoir, où on découvre la vie des gens. On est toujours étonné parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour vendre bien et vite, il vaut mieux avoir quelque chose d'alléchant. On a l'impression que ça s'améliore quand même depuis quelques années et que les agents immobiliers ou ceux qui font les photos, on ne sait pas si c'est des pros, des particuliers, sont de plus en plus à l'aise avec cet outil.
Oui, alors c'est tout à fait raison. On a fait des études chez Nodalview qui prouvent qu'une photo qualitative, alors juste une photo qualitative, c'est une photo qui est belle, qui est droite, qui est descriptive et qui représente le bien tel qu'il est, ça génère environ 4 fois plus de clics sur les portails immobiliers. Donc c'est gigantesque pour un agent immobilier qui dépense des centaines, voire des milliers d'euros dans des budgets de diffusion pour les portails immobiliers, de savoir qu'il peut toucher 4 fois plus de personnes en faisant simplement une belle photo. Donc je pense qu'il y a une tendance plus globale aussi dans le web qui est qu'on est aujourd'hui attiré à des choses qui sont mises en valeur de façon qualitative. Et donc, quand on va sur Amazon, on a des super beaux produits, super belles photos des produits. Quand on va sur Airbnb, toutes les photos sont jolies.
Et donc, elles sont faites par des professionnels sur Airbnb, je crois. En tout cas, c'était le modèle de base.
Le modèle de base d'Airbnb, la réussite d'Airbnb, d'ailleurs, c'est un peu là-dessus qu'on s'est mappé, c'était le fait que les fondateurs d'Airbnb ont envoyé des photographes professionnels refaire des photos d'annonces qui avaient été listées sur des sites de petites annonces. Et c'est le côté photographie professionnelle qui a apporté la confiance des consommateurs et des internautes et qui a fait en sorte que la plateforme a décollé. Et donc Airbnb, ils disent toujours, nous, notre succès, c'était le fait d'avoir introduit la photo professionnelle sur nos annonces. Et c'est ça qui a donné confiance aux gens. Et donc, en effet, il y a un effet plus global autour de la photo professionnelle qui est que ça apporte plus d'attention, c'est déjà plus pro aussi, ça met mieux en valeur. Et donc, c'est vraiment important. Et nous, chez Nodalu, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est-à-dire les stratégies marketing qu'on va déclencher. Si on n'a pas une belle photo, bah, autant pas le faire.
C'est de ce constat de l'importance de la photo et de l'image que vous avez décidé de fonder Nodalview.
Alors non, le début de Nodalview, en fait, c'était, on ne s'était pas vraiment lancé dans une aventure entrepreneuriale. On est assez technique avec Mickaël, qui est l'autre cofondateur de Nodalview. Et en fait, on est plutôt parti d'une expérience client qui était la visite immersive. Donc à l'époque, il y avait les photographes Google qui faisaient des photos à 360 degrés et qui mettaient ces photos sur Google Street View en promettant au petit commerce d'être mieux référencé en ligne. Et donc, on trouvait ça vachement cool. Moi, je trouvais ça vachement cool, mais c'était super compliqué. Donc, il fallait faire appel à un photographe qui venait avec son appareil photo, il venait avec son trépied, il retouchait les photos, il les remontait, etc. Et avec Mickaël, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait probablement automatiser et reproduire toutes les étapes que faisait le photographe à partir de son smartphone. Une des grosses particularités de Nodalview aujourd'hui, c'est que le seul outil de capture dont on a besoin, c'est son smartphone. Et donc, grâce à toute l'intelligence qui est derrière et toute l'automatisation qui est derrière, on a réussi à vraiment proposer une solution tout en un qui permettait de faire des expériences immersives à 360 degrés. Et c'est là où, plein d'ambition, en 2016, on s'est lancé à la conquête du marché immobilier.
Donc, quelque chose d'accessible finalement à tous, puisque aujourd'hui, on peut dire que presque 100% des agents immobiliers ont des smartphones.
Exactement. Accessible à tous, mais surtout qui délivre une énorme valeur. Donc aujourd'hui, c'était super important. Notre approche et l'approche qu'on a chez Nodalview, c'est de démocratiser l'accès. Alors avant, c'était à des techniques de photo professionnelles. Maintenant, c'est de plus en plus en train d'évoluer vers des stratégies de marketing plus compliquées. Tout ça englobé dans un outil qui combine du coup plateforme et outil de capture, mais qui permet aussi aujourd'hui de s'ouvrir à d'autres solutions, comme il y a des photographes qui peuvent envoyer leurs photos directement dans Nodalview, où on peut importer du contenu qui vient d'autres sources de capture. L'important, c'est communiquer de façon qualitative, et maintenant le défi de demain, ça va être de communiquer sur tous ces réseaux et d'optimiser tous ces canaux digitaux pour se créer une audience en tant qu'agent immobilier et pour un peu créer du flux d'intérêt un peu secondaire par rapport aux canaux classiques.
Je reviens sur la photo, ça veut dire qu'aujourd'hui, pratiquement, tout le monde, c'est vrai, vous l'avez dit, Johanna a son smartphone, prête à le dégainer avec des résolutions incroyables, mais ça ne fait pas de vous un bon photographe. Comment vous formez les gens, justement, à faire des belles photos ?
Alors, c'est la particularité de l'immobilier, c'est que, en fait, ce qu'on veut faire, ce sont des photos descriptives. Donc, en fait, ce qui est très compliqué dans la photographie, c'est le côté artistique. Donc, les vrais photographes qui font des photos de mariage ou qui font des photos de voitures, ce sont des artistes. Par contre, quand on vend un bien immobilier, un bien immobilier, en fait, on veut que la photo elle soit descriptive. On veut juste qu'elle montre l'espace. Et donc, on a inclus d'ailleurs dans l'application des techniques photo, de nouveau, qui sont des techniques, en fait, des astuces de cadrage très simples qu'on donne. Et du coup, on accompagne vraiment les gens dans la prise de vue. Et avec une dizaine de conseils photo, on peut aujourd'hui proposer des photos qui sont très, très qualitatives. Et qui sont surtout présentés de façon professionnelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la photo, il y a la majorité de la qualité perçue de la photo qui est dans la retouche. Donc, aujourd'hui, vu que Nodalview automatise la retouche grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, on enlève un peu un poids auprès des gens.
Alors, un instant, parce que c'est un peu ce qui a fait le succès d'une grosse boîte aussi, un peu connue maintenant, c'est Instagram. C'est ces fameux filtres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire une photo assez basique, finalement, mais grâce à la retouche, et je crois qu'elle est automatique dans votre produit, on va avoir une très belle photo avec quelques filtres.
Oui. Alors, Instagram, Instagram, en effet, ce sont des filtres. Ça veut dire qu'on vient appliquer un espèce de traitement par-dessus, qu'on peut rendre un peu plus blanc, un peu plus bleu, un peu plus, peu importe, noir et blanc. La particularité de la photo immobilière, c'est qu'on a un contraste très élevé. Ça veut dire que quand on est face à une fenêtre, on a ce qu'on appelle un contre-jour. Et donc, on a une sorte de plage dynamique. Alors, la plage dynamique, c'est quoi ? C'est l'intensité de la lumière qui vient de l'extérieur comparée à l'intensité de la lumière de l'intérieur. Alors, l'œil humain est très, très fort pour compenser ces contrastes, mais les appareils photo, encore plus les smartphones, sont très mauvais, parce que c'est des tout petits capteurs, et donc ils n'arrivent pas à s'adapter. Et donc, en fait, là où Instagram, c'est un simple filtre, Nodalview va beaucoup plus loin, parce que nous, on comprend la composition de la scène, on décompose ça dans plusieurs clichés, et donc, en fait, notre solution, elle permet de faire les meilleurs réglages en fonction de la situation dans laquelle on est. Okay. L'avantage, c'est qu'on est toujours dans de l'immobilier, donc on peut simplifier les réglages. Je pense qu'Instagram, il voit passer un peu plus de photos divers et variées que ce qu'on a chez Nodalview.
Donc ça, ça veut vraiment dire, pardon, juste pour terminer sur ce sujet, que l'agent immobilier a juste un bouton, appuyer sur un bouton pour que sa photo soit directement traitée.
Exactement. Exactement. Nous, le but de NodalView, c'est simple, qualitatif, pas besoin d'investir ni dans du temps ni dans de la formation, et surtout un outil d'autonomie. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution du monde de l'immobilier, le côté instantané, tout le monde veut tout de suite. Quand on est agent immobilier, on doit tout de suite mettre en ligne, les propriétaires veulent que ce soit diffusé immédiatement. Et donc le côté instantané, c'est un truc qui est très très important chez NodalView. Et tout est instantané, tout est synchronisé dans le cloud, et tout est optimisé pour être utilisé en pleine autonomie.
Il y a beaucoup de valeurs qui est apportée déjà dans votre blog. Hein. Par exemple, je prends l'article B.A.B.A. pour des photos immobilières au rendu professionnel. Et là, il y a finalement le guide de tout ce qu'il ne faut pas faire avant, après, en voyant, voilà, prenez vos photos immobilières en diagonale. Voilà, surtout si encore dans une petite pièce, placez votre appareil à bonne hauteur. Voilà, ça évite les contre-plongées, etc. Ouvrez les volets, les rideaux. Bref, des astuces, des éléments qui peuvent déjà, hein, si on met ces 10 conseils là en pratique, hein, sur un court poste, d'améliorer grandement. Qu'est-ce qui va faire finalement la force? C'est cet outil de retouche par rapport à celui qui prendrait juste vos conseils comme ça en ligne?
Alors, l'avantage de NodalView, c'est qu'on va au-delà de la photo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on publie un bien, bah, il faut des photos, mais aujourd'hui, on sent bien que ça répond plus spécialement aux attentes des consommateurs. Donc, il faut aussi proposer de la vidéo, puis il faut faire de la visite virtuelle. Et l'avantage de NodalView, c'est qu'on regroupe toutes ces options de capture dans l'application. Et en fait, la capture, c'est vraiment l'étape numéro une. On a besoin de capturer des photos. Donc, en effet, si on suit les conseils que NodalView donne et qu'on utilise l'application, on devrait produire des photos qui sont descriptives, qui vont générer plus d'intérêt sur les sites. Et c'est vraiment ça le but d'une photo, c'est de capter l'attention. C'est quand on est sur un portail immobilier qu'on se dit « Ah, c'est ce bien-là que je veux visiter ». Après, ce qui vient après, c'est vraiment toute la stratégie de diffusion. Et c'est là où l'avantage principal de NodalView, c'est aussi d'accompagner l'agent immobilier dans la deuxième et troisième étape, qui est de dire valoriser le contenu, mettre son logo, etc. Et puis après, dans les stratégies de diffusion, c'est là où ça devient super compliqué, parce qu'aujourd'hui, il y a Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, on ne comprend pas vraiment, on sait qu'il y a une grande audience dessus, mais on n'arrive pas vraiment à matérialiser.
C'est utilisé pour les agents immobiliers, ça commence ?
C'est très utilisé. Je pense que la statistique officielle en France, c'est 74% des Français se connectent sur Facebook. C'est gigantesque. C'est un chiffre gigantesque. Et donc, les agents immobiliers y sont. Alors, je pense que c'est un peu difficile. Et même pour nous, c'est difficile de comprendre comment est-ce que je peux monétiser cette audience qui est gigantesque. Qu'est-ce que je mets dessus? Alors, est-ce qu'on va acheter un bien immobilier sur Facebook? Je ne pense pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que Facebook, c'est un rappel quotidien d'une activité. Et donc aujourd'hui, un agent immobilier, en publiant régulièrement, bah, il se crée une sorte une audience digitale autour de son agence. Alors peut-être qu'un jour, c'est quelqu'un qui va voir un bien passer, qu'il a vraiment envie. Peut-être qu'un jour, ça sera un acheteur qui va dire, ou un vendeur plutôt, qui va dire, je dois vendre mon bien, mais je ne sais pas à qui je vais faire appel. Donc je vais probablement faire appel à la personne que j'ai vue le plus souvent. Et là, ça sera vraiment l'agent immobilier qui a été le plus présent, qui sera probablement primé. Et donc, les réseaux sociaux, ils sont utilisés aujourd'hui un peu par des gens qui cherchent à acheter, des gens qui... Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui cherchent à acheter convergent sur un portail immobilier.
Oui, alors ben, c'est le réflexe, hein, je crois. Bon, on peut les citer, on les connaît bien sur nos antennes. Se loger, Le Bon Coin, c'est les réflexes quasi automatiques. Bien sûr. Il y a bien sûr une flopée de sites, peut-être moins Facebook. Ça veut dire que lorsqu'on va faire des photos avec NodalView, on va pouvoir les mettre sur ces grands sites, on va pouvoir utiliser ces photos retouchées pour les mettre et faire sa pub.
Donc le but de NodalView, c'est vraiment capturer tout le contenu et ensuite d'apporter le contenu sur le bon canal au bon moment. Ça veut dire que une photo, on va pouvoir l'utiliser sur son site, on va pouvoir l'utiliser sur un site comme Se Loger, Le Bon Coin, etc. On va pouvoir le republier sur Instagram, sur Facebook. Et donc l'idée de faire du contenu qualitatif, c'est qu'en fait ça paye parce qu'on va le diffuser sur des canaux multiples et divers. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un bon investissement, parce qu'en fait l'investissement principal maintenant pour faire des belles photos, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est du temps. C'est de faire comprendre aux propriétaires qu'ils doivent ranger, que ça doit être propre, que il faut un peu nettoyer ce qu'il y a sur la table, on ne peut pas laisser traîner les affaires qui sèchent. Donc c'est un investissement en temps, c'est un investissement un peu en énergie. Alors quand on sait que dans un marché tendu, tout se vend, il y a des fois un peu... on fait un peu moins attention aux détails, donc on essaye d'aller vite. Mais au final, un reportage photo qualitatif, ça va être utilisé beaucoup de fois. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi ce qui donne l'image de l'agent et de l'agence immobilière. Aujourd'hui, une agence immobilière, elle vit principalement au travers de l'image qu'elle donne dans sa vitrine, sur son site internet. Et donc, c'est principalement les biens qu'elle publie qui constituent à créer son image de marque.
Est-ce qu'il y a des contenus qui se prêtent plus à certaines plateformes qu'à d'autres ?
Ouais, alors il y a des plateformes, par exemple, sur Instagram, quand on utilise de la vidéo, Il y a des contenus qui sont toujours plus immersifs et plus engageants. Et donc la règle générale, et ça, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google, c'est qu'à partir du moment où les gens considèrent que le contenu est engageant, on va être mieux référencé. D'accord ? Donc sur Google, si on le sait, si les gens restent sur son site et qu'on reste longtemps et qu'on clique sur plusieurs pages, Google considère que c'est du contenu engageant et va remonter le référencement. Et ben c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, quand on voit que les gens restent longtemps à regarder une vidéo, et ben on va être naturellement plus diffusé, on va être naturellement plus présent. Et donc, qui dit engageant dit qualité. Et donc, ça dépend un peu du contenu. Mais par exemple, sur Facebook, on peut maintenant incorporer du contenu 360 immersif. Donc, c'est génial, on est en train de scroller sur Facebook et tout d'un coup, on est plongé dans une cuisine, une salle de bain, peu importe. Et on peut tourner à 360 degrés. Et typiquement, ce genre d'expérience un peu plus immersive, un peu plus interactive, vu qu'elles augmentent l'engagement, et elles ont tendance à être mieux diffusées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le jeu de pas diffuser toujours la même chose, mais surtout de se concentrer, de dire est-ce que ce que j'apporte, ça apporte vraiment quelque chose, est-ce que les gens regardent, est-ce que les gens sont dessus, et c'est ça un peu le pari des réseaux sociaux, c'est d'arriver à garder l'attention des personnes, parce qu'on sait qu'elle est pas très longue, je crois que c'est 7 secondes l'attention moyenne aujourd'hui, donc il faut vraiment mettre beaucoup d'informations dans un court laps de temps.
Et il y a un mot intéressant qui a été prononcé, c'est celui d'expérience. Aujourd'hui, c'est plus juste je consulte une annonce parce que je cherche un bien, c'est vraiment je veux vivre quelque chose d'un peu inédit. Exactement. Et d'un peu particulier.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un peu... La crise sanitaire a propulsé sur le devant de la scène une technologie qui s'appelle la visite virtuelle, donc qui est en fait juste une visite à 360 degrés immersive qui existe depuis très longtemps. Donc ça existait avant le Covid. Il y a beaucoup de gens qui en ont peut-être pris connaissance pendant le Covid, mais...
Ça a décollé.
Ça a décollé parce que c'était la seule solution. Et alors là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une mauvaise éducation du marché sur comment on pouvait l'utiliser. Parce qu'en effet, la visite virtuelle, tout le monde pense qu'en fait, ça remplace la visite, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc beaucoup d'agents immobiliers avant mettaient le frein en disant non, moi, si les gens visitent en ligne, ils ne vont plus me contacter moi en tant que professionnel de l'immobilier. Et donc, du coup, je fais plus mon métier. Or, la visite virtuelle, c'est une sorte de contenu qu'on peut proposer, immersif et un peu innovant, dans une expérience d'achat immobilier. Donc aujourd'hui, on regarde souvent, les agents immobiliers regardent souvent les vendeurs, mais au final, le vrai problème, c'est les gens qui cherchent à acheter de l'immobilier. Et donc, la visite virtuelle, c'est un outil qui peut être utilisé dans cette recherche immobilière. Quand on regarde le schéma classique, c'est je suis sur un portail immobilier, j'essaye d'appeler l'agent immobilier, de rentrer en contact avec lui, je croise les doigts pour avoir une visite en espérant que le bien ne soit pas vendu. Et je fais ça pendant des dizaines et des dizaines de semaines jusqu'à ce que je trouve enfin un bien. Avec NodalView, on arrive à en fait un peu digitaliser une partie de cette expérience parce que la première fois qu'on va rentrer en contact avec l'agent immobilier, au lieu d'aller tout de suite visiter, il va pouvoir proposer une visite virtuelle immersive guidée. Ça veut dire qu'on va pouvoir se connecter comme dans une visioconférence, dans Zoom, WebEx, peu importe, et on va pouvoir visiter virtuellement le bien avec les explications de l'agent immobilier. Donc on va pouvoir comprendre quand le toit a été rénové, le montant des charges, etc., s'il y a une chambre, s'il y a la possibilité de faire des travaux. Et donc ça rend le processus très efficace et d'un point de vue acquéreur, c'est très agréable parce que du coup on a un gain d'efficacité qui est incroyable. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être visiter même plus de biens. C'est juste que ça va nous prendre moins de temps parce qu'on peut le faire digitalement. Mais pour l'agent immobilier, on peut surtout le faire en étant accompagné. Et donc l'agent immobilier qui veut rentrer en contact avec beaucoup de personnes, et le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui est très, très humain au final. Ça lui permet de découvrir plein de gens, plein de projets d'achat. Il ne faut pas oublier que derrière la phrase un peu cliché d'immobilier, c'est derrière chaque acheteur se cache peut-être un vendeur. Et donc, au final, l'agent immobilier, en utilisant une nouvelle technologie, mais en la plaçant bien dans son expérience, peut vraiment apporter une nouvelle manière de découvrir de l'immobilier. Et je pense que c'est ça un peu la tendance de demain, c'est de proposer des expériences qui vont au-delà des attentes. Aujourd'hui, on sait que les agences immobilières ont tendance à être légèrement en dessous des attentes des consommateurs, mais le marché est tendu et donc c'est normal. Et je pense que dans le futur, le rôle de l'agent immobilier, c'est vraiment d'aller au-delà des attentes du consommateur.
Merci Thomas. On va poursuivre, si vous le voulez bien, en changeant un petit peu d'exercice, puisque je vous le disais en introduction, on a appelé certains de vos proches, certains de vos amis, pour leur poser quelques questions sur vous, pour vous découvrir un peu mieux. Et on va commencer avec un premier témoignage, c'est celui d'un ami, il s'appelle Gilles Briet. Est-ce que vous pouvez nous présenter Gilles avant qu'on l'écoute ?
Ouais, alors Gilles, ça fait partie de mes meilleurs amis, j'étais le témoin de son mariage. Gilles, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître quand j'avais 22-23 ans, je pense. Et c'est quelqu'un qui est d'ailleurs marié à une Française, mais qui est revenu habiter à Bruxelles. Et c'est, ouais, c'est un de mes meilleurs amis, c'est quelqu'un à qui je passe énormément de temps, et c'est quelqu'un qui me connaît très bien aussi. Et donc voilà, donc c'est vraiment une personnalité forte que j'apprécie énormément, et quelqu'un que j'ai appris à connaître plutôt tard. J'ai pas mal d'amis que je connais depuis l'école, depuis les secondaires. Et Gilles, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître un peu plus tard, et qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément.
Et bien, direction la Belgique pour écouter Gilles au micro d'Élodie Rabel.
Bonjour Gilles Briet.
Bonjour Élodie.
Vous êtes donc un des meilleurs amis de notre invité. Vous l'avez connu comment, dites-moi ?
Alors Thomas, je l'ai connu à l'université. Et ensuite, on s'est beaucoup rapprochés quand j'ai travaillé à Paris. En fait, tous les week-ends, je revenais et Thomas avait la gentillesse de m'accueillir dans son immense chambre, qui était aussi en fait le premier bureau Nodal View.
Vous faisiez la tournée des Grands-Ducs ?
Exactement. On passait pas mal de temps dans un petit bar qui s'appelait le Belga à Flagey.
Dites-moi, il a un poison, Thomas ?
Un poison ?
Qu'est-ce qu'il aime bien au bar ?
Je dirais qu'il aimait bien le carousel. C'est une petite spécialité du Belga, justement.
Ah, dites-nous un peu la recette, qu'on le fasse en studio.
Alors, il y a plein de choses dedans et on ne veut même pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais c'est un petit mélange de plusieurs alcools. Il y a aussi un petit peu de bulles, il y a de l'eau pétillante. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est assez bon.
Sacré cocktail. Oh bah, j'imagine qu'avec toutes ces soirées, ma foi, festives, vous avez des petites anecdotes à nous raconter. Vous vous souvenez de quelque chose que Thomas a fait ? Vous avez trouvé ça rigolo ?
On avait rencontré une amie justement au Belga assez tard, dans la nuit, et donc on s'est dit bon, on va terminer la soirée au volet. Moi, je la connaissais pas du tout, et puis bah, finalement Thomas, qui la connaissait et qui nous a ramené tous les trois, nous avait proposé un petit jeu de cartes qui s'appelait une crapette rapide, et en fait moi, je connaissais pas du tout, j'avais pas du tout envie de jouer. Et puis Thomas est monté, en fait, il est jamais redescendu. Et du coup, moi, j'ai dû animer la fin de soirée sans lui, avec une personne que je connaissais pas. Bon, c'était assez marrant.
Il est jamais revenu, c'est-à-dire, il est parti où ? Faire quoi ?
Se coucher.
Ah bon ? Ouais,
se coucher dans son appli Nodal View, exactement.
Et, voilà, Thomas, c'est quelqu'un qui s'en va comme ça de soirée, ciao, je dors.
Et ça lui arrive.
D'accord, okay. C'est assez particulier. La crapette, vous savez y jouer encore ?
Aucun souvenir, non.
Bon, on lui demandera en studio. Bon, alors, vous êtes un de ses meilleurs amis. C'est quoi la qualité que vous appréciez le plus chez Thomas ?
Thomas, c'est quelqu'un d'hyper généreux et toujours prêt à rendre service.
Et vous avez déjà rendu des services ?
Ouais, bah, par exemple, je reviens sur le sujet du début sur ma vie à Paris. En fait, quand je revenais à la gare, Thomas proposait à chaque fois de venir me chercher. Parce que c'est particulier, je suis pas sûr que moi je l'aurais fait dans l'autre sens, par exemple. Donc il venait me chercher en voiture, c'était très sympa, puis on pouvait discuter, et puis on arrivait dans l'atelier de Nodal View.
Et bon, alors hormis sa capacité à s'endormir sans prévenir personne, est-ce que vous lui connaissez un vilain petit défaut ?
Je dirais que Thomas travaille beaucoup trop. Il a tendance justement à faire passer un peu le travail au-dessus du reste et à rater quelques événements un peu sympas à cause du travail. Bon, après, on ne peut pas lui en vouloir, ça lui a plutôt bien réussi.
Mais justement, Thomas est avec nous là dans le studio de Radio Imo. Vous avez l'occasion unique de lui dire un truc que vous n'avez peut-être jamais osé lui dire. Il vous écoute.
Salut Thomas, alors un truc que j'ai jamais osé te dire, eh bien écoute, ce que je vais te dire, c'est que je t'admire énormément. Je trouve ça assez impressionnant, tout le petit cheminement que tu as fait. Je te vois encore sur ces premières heures dans ton grand bureau, enfin dans ta grande chambre et dans ton grand bureau, à assembler tes petites pièces pour tes appareils photo Nodal View, et voir maintenant où tu en es. Où t'en es arrivé, c'est assez impressionnant et je suis assez fier de toi.
Voilà pour le témoignage de Gilles Briet. Thomas, un petit mot sur le message que vous a laissé Gilles ?
Bah, c'est très sympa, je suis très content qu'il n'a pas raconté des histoires plus gênantes, donc il a choisi une bonne histoire.
Ouais, il donne quand même pas envie de sortir avec vous.
Hein. Non, mais c'était une époque qui était très difficile, c'était le tout début de Nodal View où je travaillais énormément et puis on essayait en effet de garder des moments avec... On travaille toujours énormément, mais on essaie de garder des moments intéressant avec les amis, en tout cas on essayait de sortir, on était encore jeunes, j'avais 26 ans donc on avait encore plein d'énergie, mais en effet il y avait arrivé le week-end, j'étais un peu fatigué et il faut savoir qu'il était 5h du matin donc j'ai pas été me coucher à 11h, il était vraiment super et donc du coup ouais, ça m'arrivait de juste dire bon maintenant je suis fatigué, il faut que j'aille dormir.
Et vous parlez d'atelier justement où vous bricolez les optiques etc, c'est quoi, c'était vraiment un atelier?
Non en fait c'était pas, j'essayais de retrouver parce que donc, tout début de notre vie justement on faisait du 360, j'essayais de retrouver la cette prise. Donc en fait on habitait dans une coloc, donc l'avantage de Bruxelles c'est qu'on peut vivre dans une coloc à l'UNIF et avoir une grande maison et avoir des grands espaces, qui je pense c'est pas toujours la même chose à Paris. Donc on avait une coloc avec on était quatre, ça s'appelait le Relais, et on avait donc cette grande maison et moi j'avais le dernier étage qui était l'étage sous les combles, et donc en fait j'avais une gigantesque chambre qui devait faire à mon avis 40 mètres carrés, et on a installé les bureaux de Nodelview dans cette chambre. Donc d'accord. J'avais dans ma chambre j'avais un énorme bureau, et ce qu'il faut savoir c'est que dans Nodelview on a un équipement qui est un trépied, des lentilles, etc. Et on a développé une pièce que j'ai moi-même designée d'ailleurs, en 3D, qui permet de tenir le téléphone au trépied. À l'époque, il n'y avait pas de selfie stick, c'était pas encore la grande lubie de tous ces trucs-là. Et donc, on a designé une pièce imprimée en 3D. Et donc, on recevait deux pièces en 3D, puis il fallait mettre le boulon dans le fond, il fallait coller le truc. Et donc, je faisais ça dans ma chambre pour les 100 premiers clients de Nodelview. Et donc, Gilles, qui venait dormir dans l'atelier de Nodelview.
Ouais, parce que normalement, les startups, ça commence dans un garage. Vous, dans c'était un garage, sous les combles.
C'était sous les combles, c'était à Bruxelles. C'était des super bons souvenirs. Mais donc, ouais, donc du coup, il dormait dans le bureau, slash chambre, slash coloc. Et donc, c'était en effet le premier bureau de Nodelview.
Gilles nous dit un moment que vous travaillez peut-être un peu trop et que vous manquez parfois des moments importants. C'est le cas? Vous avez cette impression-là?
Non, moi, j'ai pas l'impression. Je pense que... Enfin, oui, si. Je pense que tout le monde qui se lance dans une aventure entrepreneuriale est très passionné. C'est pas, honnêtement, lancer une société, c'est pas toujours facile. Et puis à un moment, ça grandit. Et puis il y a des responsabilités. C'est vraiment compliqué. Ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Après, je pense que c'est normal, parce que quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, on est super passionné. Et puis on pense qu'à son projet. Et donc oui, peut-être que j'ai raté quelques soirées. Encore, j'ai essayé de pas rater trop de soirées. Mais en tout cas, les moments importants, on se libère toujours pour les moments importants. Mais oui, je pense que c'est peut-être un défaut de certaines personnes qui se lancent dans des projets, c'est d'être tellement passionné qu'on y consacre énormément de temps. Mais au final, on en ressort tellement en tant qu'entrepreneur de tout ce qu'on apprend, que ce soit sur l'humain, sur le côté technique, sur le côté financier, la gestion d'entreprise, les ressources humaines, qu'au final, ça en vaut la peine. Et puis, on est quand même encore jeune, donc on a encore toute la vie devant nous de toute façon.
On peut vous demander quel âge vous avez, Thomas ?
J'ai 30 ans.
Oh, bah ça va. Ouais. Et vous avez encore effectivement toute la vie devant vous, ce qui va nous permettre de glisser un petit peu vers un portrait un peu plus personnel. Mais avant, on va faire une petite pause musicale avec un titre. Ah bah tiens, quand on l'a installé, quand on l'a ajouté au conducteur hier, vous m'avez dit ça, c'est un souvenir de soirée. Ça s'appelle Macklemore. En tous les cas, c'est le nom du groupe. Le titre, c'est Can't Hold Us. Et avant de l'écouter, du coup, je vous laisse nous raconter la petite histoire derrière ce titre.
Bah donc justement, donc on était au début de Nodelview, on était encore dans nos années jeunes, et on avait un ami qui organisait dans une boîte de nuit à Bruxelles qui s'appelle les Jeux d'hiver. Il organisait des apéros le jeudi soir, et le but c'était de dire bon ok, on commence tous à travailler le jeudi soir, c'est quand même, on appelle ça d'ailleurs en Belgique le jeudredi. C'est quand même le moment où on peut un peu se lâcher avant de vendredi soir, plutôt faire des trucs avec ses proches. Et donc, il organisait des apéros dans cette boîte de nuit qui ouvrait officiellement à minuit. Et donc, lui, il organisait une soirée de 10h à minuit. Et le but, c'était de faire venir des gens dans cette boîte de nuit un peu plus tôt, dans le but, évidemment, qu'on reste. Et pour un peu lancer la soirée, donc ça se transformait vraiment en apéro un peu avec dînatoire, avec de la charcuterie, etc., gentil. Et puis progressivement, ça se remplissait. Et puis ça commençait, c'était une boîte de nuit quand même, donc en plein air, mais donc qui est très sympa. Et puis à minuit, c'était soit on partait, soit on restait, et alors on restait pour la soirée. Et donc pour inciter les gens à rester, il y avait un moment, c'était toujours minuit, et nous on y allait parce qu'on supportait notre ami, évidemment. En tant que bon copain, on était là pour le supporter dans ses soirées. Et à minuit, il y avait cette musique qui était lancée, et avec des plateaux de shots, des feux de Bengale, et c'était vraiment le signe que c'était la fin de l'apéro et le début de la soirée. Et donc, il y avait des shots qui étaient distribués à tout le monde. Et tout le monde disait, bon, bah ouais, on va quand même rester. Et puis, une heure après, tout le monde disait, oh là là, on va le regretter demain. Et donc, du coup, on passait la soirée. Mais donc, cette musique, c'est marrant parce que dans notre... On a une bande d'amis qui est très fusionnelle. On a les mêmes potes quasi depuis 15 ans. Et ça reste toujours, même quand on fait encore des week-ends à Madrid entre mecs ou quand on va au Portugal avec les copains, c'est toujours la musique qui signe, qui déclenche vraiment la soirée. Donc c'est un truc assez symbolique.
Allez, on écoute. Macklemore, Can't Hold Us. What it is, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go?
I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
Yeah, and we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands.
Avec Promis, Crédit Advisor et Opinion System.
De retour en studio pour ce Mac de Limo, aux côtés de Fabrice Coustet, un Mac de Limo qui est dédié ce matin à Thomas Lepellars, le cofondateur de Nodalview. Alors Thomas, nous sommes très curieux avec Fabrice de savoir comment vous vous êtes retrouvé entrepreneur dans l'immobilier. C'est quoi votre parcours ?
Alors moi, j'ai un parcours très atypique. Je suis né en France, à Paris. Ma mère est française et mon père est hollandais. On a déménagé en Angleterre quand j'avais 5 ans et j'y ai passé 7 ou 8 ans. Et puis on est arrivé en Belgique, parce qu'au final, c'est pile entre les Pays-Bas et la France, donc ça arrangeait bien tout le monde. Et après l'école, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Donc j'ai toujours bien réussi à l'école, c'était assez simple pour moi, les secondaires. Puis je suis arrivé à l'UNIF à 17 ans, où je devais choisir ce que j'allais faire pour le reste de ma vie, et j'avais aucune idée. Et donc, j'ai fait la chose qu'ont fait tous mes amis. Donc, j'ai fait une école de commerce.
Classique.
Choix assez classique. Et que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. J'ai fait ça pendant 3 ans et je trouvais que c'était pas du tout. Je trouvais ça pas du tout assez tangible. J'aime bien créer. J'ai toujours bien aimé. Quand j'étais jeune, je voulais être architecte et je faisais des dessins et des plans. Et je trouvais que dans les écoles de commerce, il y avait vraiment rien de créatif. Et j'ai toujours aimé la programmation, j'ai toujours fait des sites web, j'ai toujours un peu essayé de programmer sur les laptops quand j'étais plus jeune. Et j'ai arrêté mes études dans l'école de commerce et j'ai découvert une plateforme qui s'appelle edX. Et edX, c'est une initiative de Harvard et de MIT, donc les deux universités américaines, qui ont open sourcé leurs cours. Donc en fait, ils ont créé une plateforme qui s'appelle edX et sur laquelle ils donnaient des cours qui se donnaient en physique aux États-Unis et qu'ils ont décidé d'ouvrir. Donc c'était les MOOC, je pense qu'aujourd'hui, il y a Open Classroom, etc. C'est des modèles qui sont basés là-dessus. Et j'ai découvert des cours de programmation et je suis tombé amoureux de la programmation. Je trouvais ça génial. J'ai fait pendant 3 ans de manière ultra intense tous les cours que je pouvais trouver sur le sujet du computer science. J'ai fait des cours de programmation, des cours où on faisait des jeux, des trucs de processing de cartes de crédit. J'ai fait vraiment plein de trucs et je trouvais ça génial parce que je trouvais que ça a un challenge intellectuel qui était assez fort. Et ça me donnait surtout la possibilité de créer des choses et de trouver en fait... au travers de la programmation, des solutions efficaces à des problèmes qu'il y avait tous les jours. Et donc, je me suis lancé, j'ai joué pas mal au hockey sur gazon, qui est un sport connu en Belgique et aux Pays-Bas aussi.
C'est le sport où on court
On court sur un terrain avec une crosse de hockey.
Je ne juge pas.
Notre coach nous sponsorisait nos maillots. Il avait une carrosserie, il disait « Le seul truc, c'est que vous devez tous venir travailler » un jour tous les mois, ou je ne sais plus combien c'était, dans ma carrosserie pour m'aider à laver les voitures et livrer les voitures. En Belgique, il y a énormément de voitures de société, et donc du coup, on nettoyait les voitures qui étaient réparées, on allait les ramener dans le bureau des gens. Et il prenait rendez-vous, et je lui disais que son processus de rendez-vous, c'était un papier avec un... C'était horrible, c'était vraiment super au-dessous, et je dis, mais il y a moyen que tu rendes ça beaucoup plus facile, et je vais te créer un programme pour le faire. Donc du coup, j'ai créé une plateforme qui permettait de prendre rendez-vous chez son carrossier en envoyant les photos de ses dégâts, et sur base des photos des dégâts, on pouvait commander les pièces en avant, et puis donc lui, il s'est rendu compte que c'était génial, parce que ses voitures étaient immobilisées moins longtemps, il pouvait commander les pièces à l'avant quand il voyait que le phare était cassé, et on pouvait envoyer des photos de ses documents, et puis les photos étaient dématérialisées. Et donc du coup, j'ai fait ça en même temps que j'étais en train de faire mes cours de programmation. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est développer des outils ou des solutions technologiques à des problèmes qui ne sont pas spécialement compliqués à résoudre, mais qui sont lents et qui prennent énormément de temps. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui innovent aujourd'hui, qui veulent créer de la blockchain dans le golf avec du Bluetooth et qui vont placer plein de mots-clés et des choses qui ne sont pas toujours nécessaires. Moi, c'est un peu l'inverse. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut optimiser et améliorer. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs chez Nodalview. On optimise et on automatise des processus chronophages et manuels. Et donc, du coup, je me suis lancé un peu de manière atypique dans plutôt des projets. Et puis j'ai fait, après ce projet-là, qui était un projet d'apprentissage, j'ai rencontré Michael à travers de Pierre dans Nodalview. Et on s'est lancé dans Nodalview. Et vu qu'on était un peu à la base, moi, c'était un challenge technique de dire non, mais ce truc-là qui prend plein de temps, je suis sûr qu'on peut le faire plus efficace. Et puis on s'est dit pourquoi pas essayer de le vendre à l'immobilier. Et moi, j'ai toujours été hyper drivé par des projets. Et j'ai été assez rapidement passionné par le sujet. Et du coup, je me suis dit allons-y.
Mais comme souvent, on voit que c'est des pivots. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une idée très, très. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux pas en avoir, parce que c'est le meilleur moyen de perdre du temps. Peut-être commencer avec quelque chose d'assez flou, mais pratique, c'est-à-dire améliorer le quotidien, pour le coup, des agents immobiliers. Quand c'est que vous avez fait ce switch, justement, vers se spécialiser vers les agents et la photo ?
Alors, ça a été, nous, on l'a fait assez. Donc, ce qui est la particularité de NodalView, c'est que Mickaël et moi, on est tous les deux super techniques. Donc, ce qui coûte super cher quand on lance une startup, ouais. c'est la programmation.
C'est les techs.
Les techs. Et nous, on était tech. Donc, en fait, quand il y a un truc qui était compliqué, bah, on travaillait. Et on travaillait tard. C'est pour ça que je m'endormais les week-ends. Et le lendemain, on avait le bouton, le truc, la fonctionnalité. Donc, c'était génial. Et puis, on ne se payait pas. Donc, ça coûtait rien. Donc, c'était pas compliqué. Mais donc, nous, on était. En effet, on a eu un moment clé dans NodalView. Si on s'est dit, on va se lancer auprès des agences immobilières. Alors que personne ne savait ce que faisait une agence immobilière, comment ça fonctionnait. On partait tous du principe qu'un agent immobilier, ça vendait des biens et que c'était tout. Et donc, on s'est lancé après avoir travaillé dans notre niche pendant 3 mois sur notre truc. On était super contents. Mmh. Puis on a été voir un agent immobilier et puis il a dit bah, « Non, moi, ce n'est pas du tout ça que je veux. Je suis agent immobilier, je veux parler à des gens. Je ne veux pas que les gens fassent des visites en ligne. Sinon, mon métier, il sert à quoi ? Je ne vais servir à rien. » Donc là, on s'est dit « Ah, merde. » Et donc, je pense que le pivot, il s'est passé qu'on a commencé à se rendre compte qu'en fait, si on voulait vendre aux agences immobilières, il fallait qu'on leur parle, qu'on comprenne comment ils fonctionnent et qu'on arrive à vraiment se dire, bon, bah, OK, vous voulez quand même faire du virtuel, mais en fait, on comprend que vous ne voulez pas le faire de façon portes ouvertes, etc. Et donc, on a ressorti de là un truc hyper intéressant qui était l'intérêt pour une solution qualitative. Ils étaient tous hyper emballés par le fait que avec un simple smartphone, ils allaient pouvoir créer des photos qui étaient, enfin des 360 à l'époque, qui étaient ultra qualitatifs, et le côté autonomie smartphone. D'accord. Et donc un peu, on a pris ça, on a dit, tiens, ok, on va regarder qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque, et puis donc, on s'est rendu compte que la photo immobilière est un énorme point d'or. Et
donc vous avez identifié le pain point finalement, ah oui, je fais des photos, je suis pas spécialiste, que j'ai l'air un peu, et améliorer ceci. Et aujourd'hui, donc du coup, combien de gens ont été conquis par la solution NodalView ?
Alors aujourd'hui, NodalView, c'est utilisé par plus de 10 000 agents immobiliers, répartis principalement en France, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, évidemment, en Suisse. On a des clients aux États-Unis et au Japon.
D'accord. Ça peut être utilisé, du coup, partout en téléchargeant l'application, c'est ça ?
Partout, ouais. Les gens peuvent télécharger l'application. C'est d'ailleurs une de nos sources de leads les plus grandes. C'est les gens téléchargent l'application parce qu'on est référencé sur des mots-clés très dédiés à l'immobilier. Ils font des photos et on a eu encore un témoignage la semaine dernière d'une agente immobilière qui disait « Il y avait un bien sur le marché, j'arrivais pas à le vendre. Ça faisait un mois qu'il était sur le marché, j'ai eu 2 coups de fil. » Et elle a dit, j'ai téléchargé votre application, je me suis dit, tiens, je vais aller refaire cet appartement, je vais aller refaire des photos, donc elle a suivi les conseils. Elle a republié les photos sur le bien, elle a dit, j'ai eu 30 coups de fil en 2 jours. D'accord. Le même bien, le même appartement, juste des photos plus qualitatives, une meilleure mise en valeur.
Je pense à d'autres peut-être business qui pourraient utiliser votre outil. Ouais. Bah, sinon, vous parliez tout à l'heure des voitures. Il y a beaucoup de gens qui vendent aussi leurs voitures. Souvent, on voit des biens qui ont l'air pas terribles, alors que peut-être avec quelques filtres, quelques améliorations, ça pourrait être le cas. Est-ce que vous pensez alors, à une diversification ? Est-ce que vous pourriez vendre la techno peut-être à une autre société ?
Alors ouais, on a de l'intérêt d'autres... L'intérêt de tout ce qui est immersif, il est assez grand. Il y a plein de gens qui veulent faire du virtuel, que ce soit. On a eu des gens qui nous ont demandé de faire des reportages 360 degrés qu'on ne fait pas, mais qui ont demandé si on pouvait le faire pour des usines en disant qu'ils voulaient entraîner leurs ouvriers à savoir où étaient les sorties de secours dans les usines. Donc, des idées géniales, donc, pas très liées à l'immobilier. Mais donc oui, on a de l'intérêt. On a des gens, pour la petite histoire, on a commencé NodalView où on s'entraînait à faire en sorte que les 360 soient parfaits. Et donc on s'entraînait dans des bateaux. Donc on allait dans les petites cabines de bateau, on s'est dit, si on arrive à faire un 360 ici, on arrivera à faire des 360 n'importe où, parce que c'est tout petit. Et donc, on a historiquement des clients qui vendent des voiliers, des yachts et qui font de la visite virtuelle. On a des demandes de tout ce qui est hôtellerie, tourisme, etc. Et en effet, un segment qui commence à grandir maintenant, c'est le segment des voitures. Donc là, récemment, on était en contact avec plusieurs grandes marques automobiles, pardon, et pas que automobiles, d'ailleurs aussi dans tout ce qui est camions, etc. Donc tout ce qui se vend en fait de seconde main. Et donc c'est un intérêt qui est là. Alors aujourd'hui, notre stratégie de développement est très très orientée immobilier, mais en fait, on se spécialise surtout dans la commercialisation et dans le parcours d'achat digital avec des expériences immersives. Donc d'accord. Au final, on pourrait l'appliquer à l'automobile.
Et dernière question sur cette partie technique, on en a beaucoup parlé de la réalité virtuelle hein, avec ces casques ouais. qui ont été rachetés par des grandes marques, qui valent de moins en moins cher. Est-ce que vous pensez justement que ça va se développer ? Vous y croyez ?
Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu une gigantesque mode. Il y a un moment où on allait sur un salon immobilier, on mettait un casque 360 et c'était la folie. Les gens faisaient la queue pour essayer le truc. Ces casques, ils ont un gros défaut. C'est ce qu'on appelle la latence. Et donc, en fait, c'est le temps que l'écran se rafraîchisse par rapport au mouvement de la tête. Et du coup, ça, c'est ce qui arrive quand on est sur un bateau et qu'on a le mal de mer. Donc, il y a pas mal de gens qui mettent ces casques et qui ont le mal de mer.
Je confirme.
Et donc, du coup...
J'ai testé, ça ne m'a pas réussi.
Et donc, ce qui est compliqué, c'est que bah, quand on a le mal de mer et qu'on visite une maison, c'est vraiment, vraiment pas le sentiment qu'on veut donner. Et donc, je pense que la technologie est en train de devenir de mieux en mieux. Mais aujourd'hui, la VR, je crois qu'elle est vraiment en train de s'orienter vers tout ce qui est gaming, les jeux qui sont hyper immersifs. Ou alors, il y a énormément de progrès qui sont. Ou alors, c'est pas vraiment la réalité virtuelle, mais c'est une couche virtuelle au-dessus du monde réel pour accompagner pour les opérations, etc. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans la VR. Je pense que pour l'immobilier... il ne faut pas oublier non plus que dans l'immobilier, on voudra toujours aller visiter. Il n'y a rien qui va remplacer une visite physique. Alors, on peut donner envie en amont, on peut comprendre, on peut essayer de comprendre si le plan correspond, si la vue est là, si l'aménagement des pièces est bien. Mais on voudra toujours visiter. Donc, je pense que oui, peut-être qu'on pourrait un peu visiter avec un casque et c'est drôle et on peut le donner à ses enfants. Mais je pense qu'il y aura toujours la visite physique. Mais donc, tout ce qui est réalité virtuelle, ouais, ça augmente. Maintenant, on parle même des hologrammes, des trucs qui arrivent en 3D. Enfin, il y a plein de trucs qui vont arriver. Et je pense que oui, c'est quelque chose qui va peut-être un peu se démocratiser. Maintenant, avec tout le truc sanitaire, je ne suis pas sûr que tout le monde veut mettre quelque chose sur la tête qui a été chez d'autres personnes. Bon, ça, c'est un petit problème court terme, on va dire.
On l'espère.
Mais ouais, c'est des expériences immersives et ça fait partie de... Je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent des expériences. Et d'ailleurs, on le voit à Airbnb qui a lancé... en parallèle de la location d'appartements, ils ont lancé les expériences. Donc on peut maintenant sur Airbnb trouver quelqu'un qui donne des cours de cuisine. Et donc aujourd'hui, les gens veulent vivre des expériences. Et je pense que les expériences apportent de l'émotion. Et l'émotion, c'est le sentiment qu'on retient le plus souvent. Et donc, en effet, je pense qu'on va aller vers de plus en plus d'expériences immersives de toutes sortes.
Très bien. Thomas, vous vivez à Bruxelles, hein, c'est bien ça? Bruxelles ou Bruxelles? Comment on le prononce?
Bruxelles. Mais peut-être que c'est Bruxelles pour les... Non, Bruxelles. Après, il y a des petites différences entre la manière dont les Belges prononcent des mots et les Français, mais non, Bruxelles.
Vous allez dire Bruxelles pour les Français, c'est ça?
Je pense, peut-être.
Justement, on en vient à ma question. Vous vous sentez belge, vous vous sentez français ou vous vous sentez néerlandais, Thomas?
Alors, j'ai un passeport français et un passeport hollandais. Donc, je me sens en tout cas pas très belge. Je me sentirais plutôt français, je pense, franco-hollandais. Je pense que ça, c'est ce que je me sens. Après, Bruxelles, c'est une ville incroyable dans laquelle vivre. Il y a un confort de vie qui est vraiment bien. Et on vit bien en Belgique. C'est un pays très compliqué, très petit. 10 millions d'habitants, 4 langues, 3 langues. Ils sont compliqués quand même pas mal, il y a quand même des choses. Mais c'est pratique, c'est pas très loin de Paris. On vient ici en 1h10. On ne doit pas se battre pour avoir des mètres carrés qui coûtent 10, 11, 12 000 euros. Donc non, c'est une ville sympa et les gens, ils sont sympas. C'est vraiment un pays sympa.
Ça veut dire quoi, que vous ne reviendriez pas vivre en France?
Bah, je sais pas, j'avais 5 ans quand je suis parti en France, donc je n'ai pas vraiment énormément de souvenirs de quand j'habitais en France. Je crois que je pourrais habiter en France. J'aime bien Paris, c'est quand même une ville sympa. C'est des fois un peu... on se sent un peu stressé par rapport à une ville à Bruxelles où c'est beaucoup plus calme, on n'est pas 25 sur une terrasse de 10 mètres carrés quand on prend un verre. Mais non, je pourrais habiter en France. Je pense que c'est un pays qui est formidable. Il y a plein de trucs à faire en France. L'avantage de Paris, c'est qu'on peut être en 2 heures au ski, à la mer, en campagne. Enfin, on peut faire plein de trucs. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage. Donc, pourquoi pas?
On l'a dit, une mère française, un père néerlandais. Vous avez également une sœur?
Oui.
Seulement une sœur?
Non, j'ai 2 sœurs.
2 sœurs, vous nous les présentez?
J'ai une grande sœur et une petite sœur. Donc, j'étais,
donc vous êtes au milieu?
Oui, j'étais le seul garçon, donc le garçon préféré, évidemment, de mes parents.
Un peu chouchou de ses sœurs aussi, non?
Un peu chouchou de mes sœurs, ouais, peut-être. Surtout, mes sœurs jouaient un peu entre elles. Moi, j'étais le garçon qui jouait au foot, etc. Mon père travaillait beaucoup, il n'était pas souvent à la maison quand il était plus jeune. J'étais le seul garçon, mais je jouais au foot dans le jardin pendant des heures. Et du coup, ça arrangeait bien ma mère parce qu'elle ne devait pas s'occuper de moi. Et puis, mes sœurs pouvaient jouer entre elles au Barbie ou je ne sais pas ce qu'elles faisaient. Mais en tout cas, non, j'ai une très, très bonne relation avec mes 2 sœurs. On est vraiment assez fusionnels. On a une maman qui est très protectrice, un peu mère poule, si on veut. Et donc, du coup, on a ce côté très familial. Et aussi, vu qu'on a toujours grandi en dehors de nos grands-parents, etc., on est assez fusionnels dans la famille. Et on a une super relation avec mes 2 sœurs que j'apprécie énormément et qui ont beaucoup apporté et qui sont pour le coup dans cette aventure entrepreneuriale assez importante, qui sont des piliers un peu de support. Et des fois, quand ça va pas et que c'est compliqué...
Tout le monde vous a soutenu?
Ouais, ma maman, elle était un peu stressée quand j'ai dit que j'arrêtais les études classiques et que j'allais faire de la programmation, et elle était un peu angoissée. Je pense qu'elle l'est toujours, malgré que ça se passe plutôt bien pour le moment. Mais non, je pense que tout le monde a été hyper, hyper supportif. Et c'est un truc que j'apprécie énormément, c'est qu'ils m'ont laissé ma chance. Et du coup, j'ai de la chance. Bon, je touche du bois, j'ai aussi de la chance dans notre expérience entrepreneuriale, mais ça s'est bien passé. Et donc, du coup, au final, c'était peut-être un peu stressant pour ma mère, mais bon, ça se passe bien pour le moment.
On va en profiter pour écouter le témoignage de Vera. C'est votre grande sœur, c'est ça ?
Ma grande sœur, oui.
Elle a combien d'années de plus que vous ?
4 ans.
4 ans. Bon, ça va, c'est loin, mais c'est quand même relativement
ouais,
proche.
4 ans, et 4 ans avec ma petite sœur Éléonore aussi, donc vraiment pile au milieu.
C'était bien réglé. Hein.
C'était bien réglé, exactement.
Félicitations à votre maman. Comment s'appelle votre maman ?
Roselyne.
Roselyne, on la salue, je suppose qu'elle nous écoute.
Bien sûr.
En bonne maman. Alors, on la salue, et on va écouter tout de suite le témoignage de Vera Le Pellars, votre sœur, interrogée elle aussi par Élodie Rabel.
Bonjour Vera Le Pellars.
Bonjour.
Vous êtes donc la sœur de notre invité, Thomas, qui est présent avec nous. Dites-moi, forcément, Thomas, vous le connaissez depuis super longtemps. Il était comment quand il était enfant ?
Il était super, je ne vais pas dire super âge, il était toujours à la recherche de l'aventure. Il avait plein d'idées, plein de projets, plein de choses. Donc ouais, voilà.
Généralement, quand on est enfant, on s'imagine des petits univers comme ça. Est-ce que vous vous souvenez est-ce que vous avez un souvenir particulièrement marquant d'enfance avec votre frère, je ne sais pas moi, un jeu, un délire que vous avez eu ensemble, une sortie ?
Plein. Dans le jardin, on crée des cabanes, etc. Enfin, c'était vraiment notre délire.
Vous, c'est un frère dont vous êtes très proche, vous vous voyez souvent, vous sortez ensemble, ou alors vous êtes plus réus de famille ?
Les deux, on est très proches, on se voit beaucoup et on se voit aux réunions de famille.
Quel est l'homme un peu derrière nous ? On connaît le professionnel, mais alors, c'est quelqu'un de comment, Thomas, dans la vraie vie ?
C'est quelqu'un de super gentil, je veux dire super avenant, super ouvert, hyper attentionné comme frère. De toute façon, après moi, il a ses qualités, il a ses défauts, hein, mais en termes de qualité, il a des très belles qualités, ça c'est sûr.
Voilà qui nous intéresse chez Radio Imo, on aime bien être un peu taquin. C'est quoi ces vilains petits défauts ?
Ses défauts, je dirais, même si c'est un peu bizarre comme défaut, mais il travaille trop. Du coup, on aimerait bien le voir plus souvent, mais on ne peut pas le voir autant qu'on voudrait, on va dire.
Ah, dommage, je comprends.
Mais c'est
comme
pour
ça,
la bonne cause. C'est pour la bonne cause.
Quand on est passionné par son travail, c'est difficile voilà. De lâcher. Alors, je viens de vous le dire, hein, chez Radio Imo, on est un peu taquin. On adore les anecdotes. Est-ce que vous n'auriez pas ce qu'on appelle un dossier sur votre frère Thomas ?
Oh, un dossier. Non, je ne crois pas tellement de dossiers. Non, il est drôle, il fait beaucoup de blagues, mine de rien. Mais du coup, il n'aime pas trop quand lui, on lui fait des blagues. C'est plutôt ça. Mais non, je n'ai pas une idée là en tête précise.
C'est quoi le plus drôle qu'il ait jamais fait, Thomas ?
Je crois que c'était surtout quand il était petit. Il nous en a fait voir à peu près toutes les couleurs. On va dire que maman, ça l'a fait nettement moins rire, mais non, il s'est coupé les cheveux tout court, tout seul, comme un grand. Et ça, c'était très embêtant. Mais nous, ça nous a fait beaucoup rire.
Alors, allez-y, racontez-nous qu'on essaye de s'imaginer un peu. Il ressemblait à quoi avec cette coupe
en fait, tout pas grand-chose. Pas grand-chose. Il avait coupé en dents de scie, ras de la tête. C'était très, très bizarre, très moche. Mais bon, voilà, ça a duré quelques semaines.
C'est vraiment, quand c'est court, ça repousse vite, c'est déjà ça l'avantage. Vera, votre frère, il est avec nous dans le studio, là. Est-ce que vous auriez, je sais pas, quelque chose à lui dire ? Tiens, un gage qu'il pourrait faire, là, en direct avec nous.
Un gage ? Mais du coup, Thomas, ça serait bien que tu racontes une de tes meilleures blagues, là, comme ça, à tout le monde.
Ah bah si, Thomas. C'est une demande express de Vera, donc nous attendons une blague.
Une blague. J'ai une blague et je suis sûr qu'elle va savoir exactement laquelle je vais faire. C'est trois petits steaks hachés qui courent dans une forêt. Et il n'y en a que deux qui ressortent. Et puis ils se regardent, ils se disent bah, il est où le troisième ? Et ben, il s'était caché.
Non, elle est mignonne. Moi, je la valide, Fabrice, je ne sais pas. Mais moi je la valide.
8h55, voilà, dans le mec de Limo. Alors, on a eu des tours de magie, on a plein de choses hein, qui se passent dans cette
des
émission.
Des salutations, il y a de tout. C'est absolument exceptionnel. Thomas, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter professionnellement et personnellement pour les mois, les années à venir ?
Bah, professionnellement, je pense qu'un peu la continuité de tout ce qu'on a construit chez Odalio, c'est une aventure incroyable. Aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'être entouré de 75 personnes qui sont tous plus motivés les uns que les autres, qui sont des entrepreneurs dans l'âme et qui se battent pour qu'on construise un produit qui a vraiment de l'impact auprès des agents immobiliers. Et ce qui est génial, c'est qu'on a un scope incroyable aujourd'hui au niveau européen, mais aussi déjà un peu en dehors. Donc ça, j'espère que ça continuera et j'ai vraiment, vraiment de la chance d'être accompagné par toutes ces belles personnes qui travaillent chez Nodalview. Et puis, privé, bah, peut-être un peu moins travailler, si j'ai compris. Mais non, je pense que de manière privée, bah, de continuer à arriver à profiter de la vie à côté du travail, je pense, et de toujours en faire des belles rencontres, je pense que c'est le plus important.
Merci beaucoup Thomas Lepelaerts d'avoir été avec nous ce matin. On était ravis d'apprendre à vous connaître un petit peu mieux. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver tous les mois dans l'émission Immo & Tech. Et puis s'ils n'arrivent pas à vous écouter à l'heure de diffusion, eh bien, ils peuvent retrouver les podcasts évidemment sur le site de radio.immo. Merci Fabrice de m'avoir accompagné ce matin.
Merci Johanna, merci Thomas. Merci. Bonne journée à tous.
La semaine prochaine, et nous serons dans le Mac de l'Immo en compagnie d'Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment, qui viendra nous parler un peu de l'actu de la FFB, mais aussi nous parler de lui. On découvrira un peu qui est ce président. Dans un instant, le Flash Info. On va se quitter avec le dernier titre de la playlist de Thomas Lepelaerts. C'est Lou Béga Mambo No. 5. Et puis les infos, j'ai dit. Donc à 9h, je l'ai dit. Et juste après, on va changer un peu la programmation. Émission spéciale, vous pourrez retrouver Christophe Bordet en direct de Châtenay-Malabry pour le lancement de La Vallée, qui est le nouveau programme des Phages. Voilà, tout un programme qui va vous occuper toute la matinée. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès lundi avec de nouveaux programmes dédiés à l'immobilier. Je vous souhaite une très bonne journée. Cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me definitely sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.